Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue à la 6e édition du festival Plein Écran, le meilleur festival de cinéma sur Facebook, qui se déroule du 12 au 23 janvier 2022. Ariane Roy-Poirier au micro, très heureuse de prendre la relève de Nicolas Krief pour animer les conversations avec nos invités. Ces conversations vous sont présentées grâce à la Caisse des Jardins de la Culture, que nous remercions chaleureusement pour leur soutien. Dans cet épisode, on reçoit Annie Saint-Pierre, réalisatrice, et Steve Laplante, comédien, pour leur film « Les grandes claques » qui nous transporte au 24 décembre 1983, alors que Denis, fraîchement divorcé, angoisse à l'idée de remettre les pieds dans la maison de son ex-belle-famille. Merci beaucoup, Annie. Merci, Steve, de venir jaser avec nous du magnifique film « Les grandes claques ». Très contente de vous recevoir.
Allô?
C'est un plaisir.
Salut, salut. Dans le fond, ce qui est vraiment le fun avec les podcasts cette année, c'est que moi, je me gâte. J'ai choisi les films, fait que je peux parler avec les gens qui ont fait les films puis leur dire à quel point je trouve ça bon, leurs films. Donc, c'est vraiment comme un cadeau pour moi. Puis je pense que les créateurs se le font peut-être pas dire assez souvent à quel point leurs films sont bons puis pourquoi on les a choisis, surtout.
Non, jamais assez souvent.
C'est ça, juste, hein?
C'est jamais assez.
Fait que, garde, moi, je me fais plaisir. Je pense, Annie, en plus, je te l'avais un peu dit, mais ce film-là, moi, ça m'a vraiment arraché le cœur, mais ça l'a recollé tout de suite après, là. C'est comme vraiment le processus qui est arrivé pour moi. Je trouvais que c'était doux, que c'était sincère, que c'était tendre. La tendresse, c'est vraiment mon mot-clé. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup accroché. Je trouve que c'est un court-métrage qui est quand même qui est parfait, en fait, puis qui est très québécois aussi dans son âme. Puis dans mes notes de visionnement, j'avais aussi écrit « Steve Laplante for Prez ». Donc ça, Steve, je confesse ici « For Prez ». Confession, là, ici, moi, je pourrais être président de ton fan club, très, très fan de ton travail. Puis ici, c'est très bien illustré. Encore une fois, vous avez bien travaillé ensemble. Fait que ça, c'est comme mon amour pour le film. Je pense que c'est partagé. On pourra en reparler parce qu'il y a des belles réactions partout. Mais j'aimerais ça peut-être pour commencer, vous entendre. Ça peut être les deux, si c'est différent, mais je voudrais savoir le pitch un peu. Si vous aviez à présenter Les grandes claques, c'est quoi le pitch efficace de ce film-là?
Moi, je me suis entendue souvent le faire. On dirait que j'aimerais ça que Steve le fasse.
Ah, moi, j'allais dire, Annie est habituée, elle va le faire.
Mais on dirait que c'est ça qui va se passer peut-être pendant tout le podcast. Je vais avoir envie d'entendre Steve en parler, mais je vais me forcer quand même un peu aussi.
Ben, je trouve que c'est un film qui nous ramène en arrière dans des souvenirs. En tout cas, en le tournant, moi, c'est ce que ça me faisait. J'ai été quand même très impressionné par le travail de la direction artistique, à quel point ça me ramenait dans ces souvenirs-là de ces années 80-là. Il y avait une ambiance, une maison chargée, avec
du
trop
chaos,
de monde, trop chaud, trop de cris, trop de tout ça. C'est ça que ça me faisait quand on arrivait, puis en même temps... Pendant le tournage, on était bon, puis il y avait l'équipe technique, puis naturellement, ça rajoutait à tout ça, mais il y avait comme juste l'arbre de Noël avec les flocons. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu un arbre de Noël avec des flocons. Je pense qu'on n'a même plus le droit.
Des glaçons, façon, là.
Des glaçons en métallique.
Je pense que
comme... Oh mon Dieu, ça doit étouffer les enfants aussi. Je dois avoir eu plein d'accidents avec ça. Ouais. Mais juste d'arriver là, puis surtout la maison qu'ils avaient trouvée. Qui n'avait pas eu beaucoup de rénovation. Mmh. Puis bon, j'imagine qu'elle avait été choisie pour ça aussi. Fait que c'est, tout de suite, de rentrer là, on dirait que j'arrivais chez ma tante.
Ouais,
une mélancolie qui venait avec ça, une espèce de mélancolie. Ouais.
C'est drôle, les gens me nomment souvent ça comme le côté nostalgique du film. Pour quelques autres films précédents que j'ai faits aussi, ce mot-là qui revient beaucoup, là, je pense que c'est inconscient, je suis peut-être un peu nostalgique, mais pour moi, c'est juste une extension de mon univers. Tu sais, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui est dans ma tête. C'est ma tante-là, c'est mon oncle-là, je les connais. La région, c'est de là que je viens. Des fois, j'ai l'impression que les gens, ils sentent... comment je dirais ça? Tu sais, pour les gens qui viennent de Montréal, c'est très exotique. Mais pas pour moi. C'est juste mettons qu'on campe un film à cette époque-là, c'est ça, tu sais, je pousse pas, je grossis rien, au contraire, tu sais, j'essaie que ce soit le plus vrai possible, mais c'est mon univers, puis il est poétique, là, tu sais, c'est comme ça en région, le monde est poétique, c'est, ils ont tout un petit brin de conteur en eux, puis je retourne là parce que ça fait partie de ce qui est à l'intérieur de mon cerveau, j'imagine, mais c'est ça, j'ai beaucoup entendu le terme nostalgie. Oui.
Ben, c'est vrai qu'on le sent, puis il y a aussi quelque chose, comme tu dis, d'assez personnel, définitivement, dans le film, ça, on le sent, puis je me demandais, comme justement, l'étincelle d'avoir envie de raconter cette histoire-là, ça t'est venu d'où, de vouloir parler de cette relation père-fille-là, parce que c'est quand même ça le core, le centre.
Oui, ben... de ma relation parfaite, j'imagine. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est un film-là. Moi, les films, c'est un peu comme la mémoire, là. Tu sais, il y a toujours comme le cœur a existé pour vrai à un moment donné. Là, il y a eu des faits réels là-dedans. Puis après ça, on le revisite, puis on sait plus trop qu'est-ce qui est vrai, puis qu'est-ce qui l'est pas. Puis on sait qu'il y a toute une partie d'inventer là-dedans, là. C'est sûr qu'en cinéma, c'est encore plus fort qu'avec la mémoire, là. Je pense pas que je truque mes souvenirs autant que ça, mais je truque mes films, là. Mais oui, c'est sûr que j'ai une relation avec mon père qui est très forte, puis qui m'a inspiré tout ça, là. Claude Saint-Pierre, mon éternel muse, là.
On le salue.
On le salue.
Salut, Claude.
Ouais, c'est ça. C'est un homme qui est singulier, qui a une sensibilité très forte, puis qui m'a permis, je pense, d'être consciente de la mienne, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui appartient au réel, disons, mais tout le reste, ben, je me suis permis de l'imaginer, là, avec des envies de drame autant que de joke.
Oui, ben ça, c'est une belle réussite du film, cet équilibre-là, là, entre, justement, c'est pour ça que ça nous brise le cœur, mais que ça le répare en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de tendresse, puis tout. Puis il y a des personnages vraiment beaux, vraiment colorés. Moi, j'aimerais ça un peu t'entendre là-dessus, Annie, sur comment tu as réfléchi ces personnages-là, mais aussi comment tu as fait ton casting. T'sais, justement, Steve, est-ce que tu pensais à lui en écrivant? Comment ça s'est passé, ce processus-là? Parce que tout le monde est si bien casté.
Oui, j'aime ça, le casting. C'est quelque chose que j'aime vraiment. J'ai l'impression qu'une fois que le casting est fait dans un film, là, il y a vraiment une grosse partie de la job qui est faite. Ça se peut que tu l'aies raté, ton film, déjà. Puis ça se peut que le plus gros soit fait. Je savais que si Steve acceptait, ben, il allait être bon, mon film. C'est une grosse responsabilité que j'y donne, mais c'est vrai. Il a fait exister Denis. Puis à partir de là, le film avait, tu sais,
une âme.
La puissance humaine que je cherchais à lui donner, il avait grâce à Steve. Puis après, ben, il y avait Lilou, puis il y avait Laurent, puis Larissa, puis toutes les autres autour. Tu sais, l'idée, c'est aussi de ne pas négliger.
Non, tout le monde est merveilleux. Pas. Ben oui.
jusqu'au figurant, tu sais, il faut que tu le connaisses, et que tu aies son histoire en tête, puis qu'il sache c'est quoi son histoire lui aussi. Fait que, c'est une partie de la création que j'aime beaucoup. Puis il y avait juste Steve que je savais que je voulais que ce soit lui depuis longtemps. Depuis le début, non, pour être honnête, parce que ce film-là, la première version, la première idée, c'est venu il y a 13 ans. C'est un début. Wow. Oui, puis tu sais, c'est comme ben plate comme révélation. C'est que c'est pas moi qui s'est levé un matin en se disant « Hey, je vais faire un film de Noël, parfait, coming of age. » Ben non, c'est quelqu'un qui m'a appelé, je faisais du documentaire à l'époque, puis c'est quelqu'un qui m'a appelé pour me dire « Je veux faire un collectif de courts-métrages de Noël qui deviendrait un long-métrage. Est-ce que t'aimerais essayer d'écrire une fiction? » Puis, ouais, puis j'ai eu l'idée, bon, de ce Noël-là, là, parfait et tout, mais tu sais, d'emblée, je pense que je sais pas si j'aurais eu l'idée de faire un film de Noël, mais...
Ouais, ça a été un peu forcé, mais c'est... Ouais. Beau hasard, au final.
Oui, puis dans la première version, quelqu'un m'a aidé aussi. Je l'ai dit quelques fois, je le répète à chaque fois. Là. Daniel Schachter, mon ami, qui a aussi eu des Noëls d'enfants, de parents divorcés de la même époque, avec qui, tu sais, on a pu rire en masse là, de des expérimentations de garde de nos parents. Puis c'est ça, c'est la première version, il y a 13 ans, est née de tout ça. C'était très, très différent. Puis à l'époque, je connaissais pas Steve autant comme acteur. Je pense qu'il n'y avait pas eu la ligne brisée même encore. Parce qu'on s'est rencontrés une première fois sur la ligne brisée. Mais en tout cas, je ne savais pas trop qui allait jouer ça. Je ne savais pas. Puis là, quand j'ai remis les mains dedans, ça a dormi là, dans mes tiroirs longtemps. Là. Finalement, ce projet-là, c'est pas fait. Puis c'est ça. C'est resté là, dans les petites oubliettes. Puis à un moment donné, j'ai fait mon précédent court-métrage, Jean-Marc Vallée en chinois.
Oui.
Puis comme j'ai beaucoup aimé faire ce film-là, j'ai eu envie d'en faire un autre. Puis là, cette histoire de Noël était restée dans ma tête. Je l'ai complètement réécrit. Et à ce moment-là, je l'écrivais en pensant à Steve. Là, c'était comme clair qu'il fallait que ce soit lui. Là, c'est particulier de savoir exactement quel type de sensibilité on veut trouver, quelle énergie on veut trouver, puis de savoir qu'il n'y a pas beaucoup, d'interprètes qui vont pouvoir te la donner.
Oui, il y a quand même une prise de risque parce qu'une fois que tu t'es accroché à cette idée-là, mettons que Steve n'avait pas pu ou voulu, là, c'est dur pour toi là, de changer d'idée. Là.
Je pense que je ne l'aurais pas fait.
C'est
un peu étonnant, ça, mais...
Mais oui, tu l'aurais fait.
Non, je pense que je ne l'aurais pas fait, tu sais, pour vrai. J'ai cherché longtemps, là, vraiment longtemps, comme...
C'était toi. Mais ouais. Moi, je voudrais t'entendre, Steve, sur justement ta première impression quand tu l'as reçu, quand tu l'as lu, ce scénario-là. Qu'est-ce que t'as filé?
J'ai filé que c'était bon. J'ai filé que c'était bien écrit, que c'était bien attaché. Puis, probablement, comme Annie dit, si elle m'avait en tête, on dirait que je me suis tout de suite vu là, là-dedans. Je me suis dit, OK, je comprenais... sans pouvoir mettre des mots là-dessus, mais je comprenais pourquoi j'avais à lire ça, là, pourquoi elle m'appelait pour ça. Puis j'ai été séduit par... parce que souvent, les courts-métrages, je trouve que c'est ça le défi, c'est d'arriver à raconter une histoire simple, en peu de temps, puis de bien la fermer, puis qu'il n'y ait pas trop de ficelles qui pendent autour. Puis je trouve que c'est une des grandes forces de ce film-là aussi, le scénario. Tantôt, je parlais de la direction artistique, mais évidemment, ce scénario-là est bien écrit.
Ouais. Évidemment.
Évidemment.
Mais c'est ça aussi, c'est... tu sais, je t'avais vu beaucoup au théâtre, en fait. Plus au théâtre, je pense, tu sais.
Oui,
parce que, platement, là... j'ai juste une antenne de télé, puis ça marche pas tout le temps bien. Hey, tu sais, je pogne même pas TVA, ça n'a pas de bon sens comme vie,
ça,
là.
Ça,
mais
c'est bizarre,
je te le dis.
Ça, c'est un peu étrange.
Je te le dis. Mais pendant longtemps, il fallait que je sorte de mon appart pour répondre au téléphone. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, les ondes, ça s'améliore, c'était pas... je pense que j'avais souvent vu, tu sais, cette intelligence du jeu que tu as qui est entre justement le tragique et la comédie, mais juste tragique, là, tu sais, comme je pense que tu as embarqué là-dedans dans les grandes claques, tu sais, de vraiment plus porter la douleur que d'ouvrir à la comédie. Tu sais, c'est la situation qui en donne un peu plus, mais toi, tu es vraiment rentré, tu sais, dans cette souffrance-là. Puis, c'était exactement ce que je voulais.
C'est drôle parce que moi, malgré ça, j'avais l'impression que ça allait donner un film beaucoup plus comique que ce que ça a donné. Finalement, je me souviens à la première fois que je l'ai vu, j'étais... tu sais, je sais pas, j'étais avec ma blonde était comme un peu les yeux dans l'eau, puis un peu... Tu sais, j'étais un peu sous le choc de faire « Ah oui, OK, c'est... un vrai drame, là, tu sais, c'est parce que naturellement, en tournage, on une fois que c'est coupé, on, on, on parle du ridicule de la situation, de ce pauvre gars-là, mais tu sais, on rit un peu de tout ça, puis on a du fun, puis on rit du pathétisme de ça, parce que le pathétique, c'est très drôle, tu sais, ça peut le devenir en tout cas, mais là, on dirait qu'avec le mood du film, il y avait comme vraiment un bon mix de... C'est supportable, parce que oui, il y a quelque chose de funny un peu là-dedans, mais c'est ça, c'est un doux mélange. Là, puis le défi, en tout cas, je dirais de ça, c'était avec Annie, c'est de trouver le bon dosage pour essayer d'y donner ce qu'elle voulait dans sa tête. Parce que moi, naturellement, puis en plus, un court-métrage, on a 4 jours ou 5. Ça va vite, là. C'était 4. Bon, ben, tu sais, on n'a pas grand temps non plus pour établir cette affaire-là. Puis des fois, on a des idées préconçu d'où on s'en va, mais c'est pas tout le temps ça, c'est pas tout le temps le bon chemin où on va, nous les acteurs. Non, mais tu sais, des fois, t'as un chemin dans ta tête, puis tu fais « Ah! » ou tu cherches le punch, ou tu sais, j'ai fait beaucoup de comédie aussi, fait que des fois, j'ai comme un faux pli à vouloir chercher le punch, mais là, Annie, elle m'amenait pas là, fait que j'étais comme... C'est ouais, beaucoup mais... une écoute entre les deux.
Mais on va te dire la vérité, là, je t'ai pas dirigé ben.
Tu penses que tu m'as pas dirigé?
Je t'ai pas dirigé ben. C'est ça,
mais tu penses que tu m'as pas dirigé. Mais des fois, diriger, c'est pas juste dans les mots. C'est pas de faire couper, puis là, d'analyser. Des fois, tu vois la face de l'autre, puis tu comprends que c'est pas ça. T'as pas besoin de toujours avoir
un discours,
de 5 minutes. Tu sais, des fois, c'est juste un feeling de faire « Ah ouais, là, c'est peut-être trop ça. » Puis là, « Ouais, tu sais, puis on se parle, puis à un moment donné, on tombe sur le poste. » Tu sais, tu fais « Ah ouais, là, t'es trop là, on revient là. » À un moment donné, couf, on tombe dessus, puis là, couper. Des fois, juste un réal, là, des fois, il coupe, puis tu sais si t'étais dessus ou pas, tu sais. Juste par la façon de dire couper, des fois, ça, c'est une façon de diriger aussi.
Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est là que ça se passe. Parce que, aussi, tu sais, si on attend vraiment longtemps avant de couper, là, tu sais que t'es dessus.
Oui, c'est ça, parce que t'es dans l'émotion, là.
Et oui, puis elle va pas perdre ses précieuses minutes de ces 4 journées-là.
Non, c'est ça.
Pour attendre de dire couper si c'est pas bon. Là,
oui,
c'est
ça. Oui, puis je me souviens que. Puis quand tu coupais, on se parlait, OK, ouais, puis on brainstormait ensemble, puis on faisait Ah ouais, ça. Puis je posais des questions, puis tu répondais, puis c'est ça aussi, diriger, c'est d'être avec l'autre. C'est pas d'avoir toutes les réponses, puis c'est pas une manette. Là, en tout cas, moi, ce que les expériences que j'ai, puis les fois où j'ai le plus trippé en tournage, c'est justement là, quand j'ai un échange avec le ou la réal, puis on cherche, puis on se pose des questions, puis à un moment donné, tu fais, bon, mais là, OK, on a fait une de même, là, celle-là, on a fait un peu plus de même. Tu sais, pour au moins se donner des options au montage, tu sais.
Ouais. Mais tu sais, moi, mon but, de toute façon, c'était pas tant de te diriger que de te révéler à la planète, là, tu sais, je voulais que tu deviennes big au States.
J'adore ça!
Il faut que je choisisse mes projets maintenant. Là, j'ai quelqu'un sur la 1. Ça sonne énormément.
Mais t'as-tu vu là, le long métrage de Monia est à Sundance? Là, parce que Sundance maintenant raffole de Steve Laplante.
Est-ce que t'as le droit de dire ça là, sur ce podcast?
C'est sorti aujourd'hui.
Ah, c'est sorti aujourd'hui parce que moi j'ai su genre hier.
C'est sorti aujourd'hui. Okay.
Ah, mais c'est une bonne nouvelle.
Tu sais que c'était à cause des grandes claques. Là. J'ai tout de suite
pensé. Ben oui, mais en même temps, j'étais un bloomer pendant la pandémie. Là. Ça ne me fait pas voyager tant que ça, tout ça.
C'est vrai, ça, par exemple. Puis moi, j'aimerais ça vous entendre un peu, parce que vous parlez beaucoup de l'expérience de tournage puis de l'échange. Est-ce qu'il y avait un peu... Parce que là, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez 4 jours. Est-ce que vous aviez un peu de place pour de l'impro? Parce que vous avez aussi des enfants avec qui jouer. C'est pas toujours la chose la plus simple. Ou c'est très, très précis, très serré?
Pas d'impro, pas de parascolaire, pas de fun. C'était bien. Okay. Non, il y a eu beaucoup de plaisir, mais pas beaucoup d'impro. On avait quand même beaucoup de scènes à rentrer en peu de temps. tu sais, je savais où je voulais aller, là. Je savais comme qu'on allait pouvoir faire telle langue, puis pas l'autre, parce qu'on n'aurait pas le temps. Puis il y a des fois où, par exemple, le chant de Minuit chrétien, ben je le voulais absolument, là, puis ben ça rentrait pas dans l'horaire, puis je me l'étais fait dire 15 fois, Annie, ça rentrera pas dans l'horaire, mais des fois, moi, je souris, puis j'écoute pas, puis ce que je veux. Puis là, le monde, il se dit, ah ouais, elle a compris, elle est quand même docile. Tu sais, il restait comme tout le temps un petit 20 minutes, puis avec, c'est Jeanne Leblanc qui était la première assistante. Oui. Puis avec Jeanne, ben on s'arrangeait pour faire, OK, ben on a 20 minutes, tu sais, on a ici, là, tout le talent et l'intelligence que ça prend pour faire 120 minutes. Étienne Roussy, qui est un directeur photo extraordinaire, qui va se mettre la caméra sur l'épaule, puis il va prendre ce qu'on veut. Puis tu as comme plein d'acteurs et même de figurants qui sont fantastiques, sont comme bien... bien crinqués dans leur ambiance de Noël. Puis, tu sais, on y allait. Ça, oui. C'est des scènes qui étaient moins placées, mais je dirais pas improvisées, tu sais. L'idée, avec les enfants, l'idée, c'était beaucoup de pas avoir écrit de dialogue préétabli, qu'ils sachent exactement ce qu'ils allaient faire, mais pas ce qu'ils allaient dire. Parce que pour moi, je me disais, si je les libère de vérifier qu'ils ont dit la bonne phrase, puis tu sais, être constamment... qu'il y a cette dictature-là là, de j'ai-tu dit qu'est-ce qu'il fallait, puis qu'est-ce qu'ils ont appris à la maison, puis ils apprennent souvent comme une chanson aussi, les enfants. Là. Fait que je dis, si je les libère de ça, ils vont être obligés d'être dans le moment présent, puis là, je vais avoir accès à ce vrai.
Ouais, la grandeur,
cette puis magie d'enfance. Ouais. Là. Fait que ça, c'était bon. C'était ça qu'il y avait d'impro.
Puis c'est ça, OK.
J'avais aussi un peu patenté pour casser les deux très professionnels, Laurent et Lilou, là, qui avaient fait, plus de tournages que ben des amis acteurs adultes déjà en ayant moins de 10 ans. J'étais dit, je vais mettre deux enfants là, bien outsiders, là, qui n'ont jamais fait de plateau, puis qui, eux, tu sais, sont pas en train de travailler, qui sont en train de triper, là, puis qui courent après les muffins au chocolat, puis ça a marché, tu sais, ils cassaient.
Ils ont ramené,
ouais. Ça a vraiment aidé, ça.
C'est excellent. Puis est-ce que vous avez eu quand même la chance de faire des répétitions avant, mettons, pour le créer le lien justement entre Steve et Lilou? C'est quand même que le film va chercher beaucoup de force là-dedans, là, dans ce lien-là. Est-ce que vous avez eu la chance de répéter?
Oui. On a fait quelques répétitions.
Oui, puis en audition, j'étais là aussi pour passer les enfants en audition. Puis, fait que oui, puis curieusement, les enfants, ils embarquent rapidement dans ce jeu-là de tourner. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête, mais on dirait de se mettre sur le tape, ils comprennent vite comment ça se passe. 3, 2, 1, ils savent qu'ils doivent se taire à un certain moment. Bien sûr qu'il y a de la discipline, puis ça reste des enfants, là, mais à chaque fois que je tourne avec des enfants, je suis toujours étonné de voir comment ils pognent ça vite. Là, tu sais, j'ai comme... C'est impressionnant quand même.
Oui, c'est comme, tu sais, c'est la base de ce qui est important pour eux aussi, là, c'est le jeu, tu sais, c'est comme de se projeter dans un monde imaginaire, puis, tu sais, d'aller avec les codes qu'on leur donne, puis là, tu sais, de jouer à ça, fait que, ouais, non, il y a de quoi, pendant longtemps, là, en préparant le film, j'étais comme, ça n'a pas rapport à un film avec des enfants. Et que ça me tente pas de faire ça.
C'est mon coup. Gérer ça.
Ouais. Puis aussi, même, les films avec des enfants, des fois, ça gosse, tu sais. Je m'auto-agressais, tu sais. Je me disais, mais pourquoi j'ai écrit ça, là, des enfants? Ça m'intéresse pas tant que ça. Puis finalement, la belle expérience, là. C'est comme si il guide, il, sans le vouloir, tu sais, il force d'être dans le moment présent, justement, là, un espèce de naturel, un espèce d'ambiance, tu sais, comme sur le plateau.
Oui, puis Lilou était, comme tu dis, très professionnelle. Tu sais, c'était une enfant, tu sais, elle était toute jeune, je sais pas quel âge elle avait, il y a 2 ans, Lilou.
Elle avait 8 ans.
8 ans, tu sais, elle me sortait des phrases, puis c'était drôle, tu sais, de voir comment, tu sais, comment tu voyais que elle voulait bien faire, elle voulait bien faire ce qu'elle avait à faire, tu sais. Puis elle prenait ça au sérieux, puis tu sais, même la scène, cette fameuse scène où le petit Laurent se met à pleurer,
ouais, la crise.
La crise du petit gars, tu sais, comme. Puis une fois qu'on a fini cette scène-là, on l'a applaudi, puis tout le monde était un peu waouh, il est bien hot, tu sais. Alors que Lilou, elle avait plus ce spotlight-là tout à coup, tu sais. Puis Lilou, elle a applaudi avec nous, puis elle a donné deux tapes sur l'épaule. Oh. Puis j'allais la voir après, puis j'ai fait, c'est vraiment bien ce que tu viens de faire là, tu sais. Tu sais, quand t'as 8 ans, là, c'est pas nécessairement évident de laisser la place puis le spotlight à l'autre quand ça fait 3 jours et demi que tu l'as eu sur toi, tu sais. C'était beau de voir. Je la trouvais quand même facile à travailler, tu sais. C'est une fille, ouais, exceptionnelle.
J'aurais envie de parler avec vous pendant des heures, mais l'idée, c'est que c'est plein écran, donc c'est des courts films et des courts podcasts.
C'est ça, mais ça va être plus long.
C'est ça, ça l'est déjà, je pense. Mais je pense que c'est très agréable à écouter. Mais votre film va être présenté de toute façon à plein écran, évidemment. Donc, il va être sur Facebook, sur notre site web pour 24 heures. Donc, ce sera le moment pour l'attraper. Hein. Tout le monde qui l'attend là, depuis un certain temps, on va pouvoir le voir. C'est gratuit, c'est accessible. C'est ça le but. Donc, on est sur les internets plein écran. Et c'est pour ça qu'on avait envie de demander à nos invités, c'est quoi vos premiers souvenirs d'Internet? Fait qu'on retourne dans la nostalgie. Annie, ça fit ici. Là. Te souviens-tu la première fois que tu as utilisé Internet?
Ben là... Et moi, ça se passe à la campagne. Oui, oui. En fait, je m'en souviens.
C'est de région.
De région, là, bas du fleuve. On ne peut pas le cacher, même avec ce petit accent qui ne part pas. Oui, oui, je m'en souviens. J'avais 15 ans. Mais, tu sais, c'est pas tout à fait précis. En fait, ce dont je me rappelle n'est peut-être pas le plus important. Mais c'est pour ça que je me rappelle. J'avais 15 ans et je sortais avec David Dubé, qui était pas mal plus vieux.
On le salue, lui aussi. On le salue bien
du monde. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Dave.
Mais maintenant, il s'appelle Da Vinci, en fait. Ah. Ouais, Gérard, mon Dieu. Dans la musique, salut Da Vinci. Fait que, c'est ça. Moi, j'habitais à Rivière-du-Loup. Lui, il habitait à Rimouski, tu sais, un bon amour là, à distance des années 90. Puis là, on était tous allés chez Dave pour un party. Puis lui, il avait Internet, puis c'était le premier à avoir Internet. Personne n'avait ça. Voyons donc, c'était ben trop moderne. Pendant tout le party, on a essayé de loader une page, puis ça n'a jamais marché. Fait que la ligne était bloquée, fait qu'il y a du monde qui voulait venir nous rejoindre au party parce que c'était un méchant de bon party. Puis, il n'était pas capable de nous appeler parce que la ligne était engagée, mais la page n'a jamais loadé. Jamais. Puis, c'est ça.
C'est bon.
Mais j'étais bien fière de sortir avec le gars qui avait Internet, même
ben
si
ouais,
on
l'aurait
pas c'est faire. Sûr, mais c'est... J'étais tombé sur le bon.
Mais ça.
Tu sais, rare. T'en souviens-tu, toi?
Ben moi, mon coloc, je me souviens, mon coloc, il avait... Il s'était acheté un ordinateur avec une tour. Puis là, il y avait Windows 95. Puis je me souviens du... Ben, c'est ce bruit-là, moi, que je me souviens, tu sais, le croc, oui. Gong, gong, ding, ding. C'est comme un bruit qu'on disait qu'on entendait, puis déjà, à l'époque, on savait que ça allait pas rester, ce son-là.
Ça se pouvait pas, là.
C'est là pour une couple d'années. Non, ça se pouvait pas, ce son-là. Tout ce enchaînement de patentes, tu fais, ben non.
On va passer à autre chose bientôt, là.
Ben oui, ça sera pas long, là, puis évidemment, c'est ça qui est arrivé, mais... Donc, ce son-là, quand même, pour les gens qui auront connu l'apparition, ça va.
Ouais. Ah non, t'es pas le seul. Moi aussi, c'est assez gravé. C'est ouais. Quelque chose. J'étais jeune, mais je m'en souviens bien de ça.
Ouais.
Hey, merci beaucoup, beaucoup de vous être prêté au jeu, d'être venu jaser avec moi. C'était très agréable. Puis on espère que tout le monde va se garrocher pour aller voir Les Grandes Claques enfin en ligne. Puis bon succès au film qui continue de tout ramasser sur son passage.
Merci bien. Merci, Ariane. Merci plein d'écran.
Merci beaucoup.
Ce podcast vous est présenté grâce au soutien de la Caisse des Jardins de la Culture. La Caisse des Jardins de la Culture est une coopérative financière qui se dédie à 100% aux artistes, artisans et travailleurs autonomes. Allié des artistes, moteur de l'économie culturelle et tremplin des organismes et entrepreneurs, la Caisse de la Culture est sensible et à l'écoute de la réalité et des besoins de ses membres et les accompagne dans la réalisation de leurs projets personnels et professionnels, le tout par le biais de conseils adaptés. Pour en apprendre plus sur la Caisse de la culture et découvrir comment elle peut vous accompagner dans la réalisation de vos projets, rendez-vous au caissedelaculture.com.